Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Jusqu'à 9h, l'info en direct sur Europe 1. Soyez les bienvenus.
Europe 1, il est 7h.
Très bonne journée à tous.
Il y a quand même des efforts à faire. Quand on voit les douches, ça donne pas envie, franchement.
À peine ministre et déjà sur le terrain, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti était hier à la prison de Fresnes, à Bayonne. Jean-Baptiste Djebari était lui venu soutenir les chauffeurs de bus après l'agression d'un de leurs collègues, toujours entre la vie et la mort.
C'est un ministère de crise aussi, comme le ministère de l'Intérieur. Et à chaque fois qu'on a des problèmes particuliers qui nécessitent d'avoir une réponse politique ou un appui politique, nous nous rendons sur place.
C'était prévisible, mais le chiffre est impressionnant. Plus de 91% de réussite au bac, un record absolu. Dans ce journal, le succès des primes à la conversion, dispositif pour l'instant suspendu, mais le temps d'une mise à jour de la plateforme sur Internet, on va vous expliquer ça. Et puis cette année, le 14 juillet n'aura pas tout à fait la même saveur que d'habitude. La plupart des feux d'artifice sont annulés.
En tant que maire, j'ai décidé de l'annuler. C'est pas le moment de créer un incident majeur, hein, un cluster à cause d'une décision mal prise, quoi, voilà.
Votre invité à 7h40, Pierre.
Laurence Rossignol, elle a été ministre du Droit des Femmes. Quel bilan tire-t-elle en semi-mandat après le départ de Marlène Schiappa? On en parle avec elle tout à l'heure. Il est 7h01 sur Europe 1 et on vous souhaite un très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, Hélène Zélani.
Dès leur prise de fonction, ils n'ont pas chômé les ministres. À peine le premier conseil terminé, plusieurs d'entre eux sont partis sur le terrain, et notamment Éric Dupond-Moretti, qui a choisi la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, l'une des plus vétustes de France. Le nouveau ministre de la Justice tenait à entendre les doléances des personnels pénitentiaires et il a eu droit à un accueil personnalisé de la part des détenus. Justin Morin a pu le suivre pour Europe 1.
Éric Dupond-Moretti vient d'arriver, les détenus sont au courant. Ils hurlent, tapent sur les portes de leurs cellules. Le garde des Sceaux s'arrête un instant, observe les coursives au-dessus de lui et balaye du regard les portes fermées, alignées les unes après les autres.
C'est très rare que ce soit comme ça.
Confidence d'une habituée, Éric Dupond-Moretti poursuit sa visite, discute en privé avec un détenu. Autour, les cris continuent. La vétusté, les rats, prisonniers et personnels pénitentiaires exposent les mêmes difficultés.
Il y a quand même des efforts à faire, hein. Quand on voit les douches, ça donne pas envie, franchement.
Mais avec le virus, le nombre de détenus a été réduit pour éviter la propagation. Et ça va un peu mieux, lui signale une conseillère d'insertion.
On espère en tout cas
on espère tous.
Que ça pourra être maintenu.
Et ce que vous dites est juste.
Face aux journalistes, pas de grands discours après ces rencontres.
On est dans des taux d'occupation ici qui sont historiquement bas. Et c'est sans doute le chemin qu'il faut poursuivre. En tous les cas, c'est ma conviction. Merci beaucoup.
Une seule question possible. La réponse est policée. L'avocat se serait peut-être étendu. Pas le ministre.
Quant au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, il était hier soir à Bayonne pour soutenir les chauffeurs de bus très très choqués par la violente agression de l'un de leurs collègues.
Oui, un collègue en état de mort cérébrale après avoir été roué de coups par deux hommes qui sont d'ailleurs mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Les chauffeurs ont exercé leur droit de retrait. Reportage Stéphane Place.
La mine grave réunie devant les bus de l'agglomération bayonnaise dans leur entrepôt, ce sont les collègues du conducteur agressé qui accueillent le ministre des Transports dès sa descente de voiture.
On espère que vous n'êtes pas venu pour la presse. Vous êtes vraiment venu pour apporter des nouvelles choses, être à l'écoute.
Bon, on va poursuivre la discussion entre nous et à l'intérieur.
Une heure d'échange avec les chauffeurs de bus à l'abri des regards ou presque, puisqu'une caméra de télévision est tout de même autorisée à tourner des images. À la sortie, le ministre Jean-Baptiste Djebari parle de sécurité renforcée.
Des solutions à court terme pour que l'activité reparte, en sécurité pour les personnels, en sécurité pour les usagers. C'est un ministère de crise aussi, comme le ministère de l'Intérieur. Et à chaque fois qu'on a des problèmes particuliers qui nécessitent d'avoir une réponse politique ou un appui politique, nous nous rendons sur place. C'est ce pour quoi on a été nommé et nous continuerons évidemment à agir de la sorte.
Un ministre qui se déplace, c'est bien, mais il faudra des réponses concrètes, dit Laurent Weber de la CGT.
Pour demain, il nous faut de la sécurité. Que ce soit par la police municipale, comme il a bien dit le ministre, ils vont travailler en coordination. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que ça va être la réalité? C'est ça le problème.
Une marche blanche est prévue ce soir à Bayonne. Elle partira de l'arrêt de bus où s'est déroulé le drame. Bayonne, Stéphane Place, Europe 1.
Et lui aussi était sur le terrain. Gérald Darmanin avait choisi le Lot-et-Garonne pour son premier déplacement de ministre de l'Intérieur.
Port-Sainte-Marie, où il a rendu hommage à la jeune femme gendarme tuée par un chauffard qui voulait éviter un contrôle. Gérald Darmanin, qui est d'ailleurs sous le feu des critiques des militantes féministes, car il est visé par une plainte pour viol. Certaines ont tenté de perturber sa passation de pouvoir avec Christophe Castaner. D'autres ont manifesté place de la Madeleine. Écoutez Caroline De Haas, militante au sein du collectif Nous Toutes.
Quand j'ai découvert la nomination du gouvernement, j'ai vraiment eu l'impression de me prendre une énorme claque, quoi. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une femme victime de viol va aller porter plainte en commissariat alors qu'elle sait que le patron de la personne qu'elle aura en face d'elle est poursuivi lui-même dans le cadre d'une enquête pour viol. Ça n'a aucun sens. Le message qui est envoyé par le président de la République, c'est très clairement que les femmes victimes de viol ne trouveront pas d'interlocuteur au ministère de l'Intérieur. Et c'est exactement la même chose au ministère de la Justice, puisque Emmanuel Macron a décidé de nommer un militant anti-féministe dans le ministère qui est censé juger, traiter les plaintes pour violence. On marche complètement sur la tête. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un gouvernement aussi ouvertement anti-féministe en France.
Voilà la militante Caroline De Haas au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal souligne que Gérald Darmanin doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence.
Et je vous rappelle qu'à 7h40, nous serons avec Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, ancienne ministre des Droits des Femmes.
Un coup de théâtre au Ségur de la Santé, le nouveau chef du gouvernement a fait une apparition surprise hier soir. Jean Castex a annoncé une rallonge de plus d'un milliard d'euros pour les salaires des soignants, soit une enveloppe globale de 7 milliards et demi. Et puis rendez-vous important aujourd'hui pour la nouvelle équipe, les questions au gouvernement. Rendez-vous devant les députés à 11h, puis devant les sénateurs à 15h.
Europe 1, il est 7h06.
Record battu. Ils étaient nombreux, les lycéens, à fêter leur réussite au bac hier soir. Plus de, tenez-vous bien, 91% de réussite.
Oui, c'est presque 14 points de plus que l'an dernier. Un examen sans épreuve, jugé sur le contrôle continu. Les précisions de Virginie Salmen.
91,5%, c'est le taux tout bac confondu, filière générale, technologique et professionnelle. Mais la réussite est encore plus prononcée si on regarde juste les candidats au bac des séries S, ES et L. 94,3%, soit quasiment 15 points de plus que l'an dernier. La hausse est si forte qu'on a des chiffres qui dépassent les taux de réussite définitifs après rattrapage. Le précédent record, c'était en 2016, 88,6%. Et la comparaison que vous attendez peut-être, c'est mai 68. Il y avait eu 81,3% de candidats à décrocher ce bac. Mais c'est difficilement comparable parce qu'à l'époque, peu de jeunes gens allaient jusqu'au lycée. Ces scores ne semblent pas surprendre Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Le fait qu'environ 9 élèves sur 10 aient le baccalauréat n'est pas choquant en soi, a-t-il déclaré hier soir après les résultats, comme pour minimiser ces scores historiques.
Et le taux de réussite n'est même pas encore définitif, puisque les oraux de rattrapage commencent aujourd'hui.
La pilule est très difficile à avaler pour les salariés d'Airbus. 5000 postes vont être supprimés en France, environ 3500 rien que dans le secteur de Toulouse. Et aujourd'hui, les salariés ont décidé de se mobiliser.
Oui, manifestation ce matin à l'appel de trois syndicats. Françoise Valin de la CFE-CGC espère une participation massive.
On n'a pas l'habitude d'appeler souvent à manifester et à faire grève. Donc on voit bien que progressivement, l'anxiété et la crainte montent. Et donc, à quelque part, les salariés seront sensibles au fait qu'il y ait cette manifestation d'organiser. Ce qui est important, c'est un, exprimer les messages que peuvent porter des salariés en expliquant qu'en se mobilisant et en étant là, ils comprennent bien qu'il y a une situation de crise et d'urgence. La deuxième chose, c'est de bien faire entendre de nouveau le fait qu'il n'y ait pas de licenciement et puis de montrer au gouvernement la mobilisation des salariés pour trouver un maximum de mesures d'âge qui pourront permettre de faire partir le maximum de salariés sur la base du volontariat.
Propos recueillis par Sarah Calamand. Et puis à Morlaix, dans le Finistère, 276 emplois sont menacés dans le centre de maintenance de la filiale d'Air France Hop. Le directeur de l'entreprise aura droit à un comité d'accueil ce matin. Des élus, des habitants et des salariés ont prévu de manifester contre la fermeture du site.
Vous restez avec nous et cette question, que se passe-t-il avec la prime à la conversion qui a tant de succès en ce moment dans le secteur automobile? Elle est suspendue pour l'instant et vous comprendrez pourquoi dans la suite du journal.
Europe 1, il est 7h10. La suite du journal, Hélène Zélani, Pierre de Villeneuve.
Que se passe-t-il maintenant avec la prime à la conversion? Si vous voulez acheter une nouvelle voiture grâce à cette prime, vous avez peut-être constaté que le site mis en place par le gouvernement est pour l'instant suspendu.
Oui, c'est le cas depuis le 1er juillet. Sur les 200 000 disponibles, la moitié a déjà été utilisée. Europe 1 vous le révélait la semaine dernière. En fait, Aurélien Fleureau, ce n'est pas une suspension, mais une simple mise à jour.
Pour un dossier de prime à la conversion, nous vous invitons à renouveler votre demande à compter du 31 juillet. Voilà ce que peuvent lire les automobilistes sur la plateforme primealaconversion.gouv.fr. Alors, le dispositif est-il victime de son succès? Pourquoi le suspendre? Il ne s'agit que d'une mise à jour du site, dit-on au ministère de la Transition écologique, qui précise, et c'est important, que les primes à la conversion ne sont pas stoppées. Il est toujours possible d'aller en concession et d'en profiter. C'est la date de facturation du véhicule qui compte et non la date de dépôt de la demande. Mais si cette mise à jour a été nécessaire, c'est aussi parce que le comptage des primes est très compliqué. Les chiffres ne sont jusque-là que des estimations, des remontées de chaque concession. Cela va prendre du temps pour savoir exactement à quel moment les 200 000 primes seront atteintes, explique Christophe Morel, président de la branche des concessionnaires au CNPA.
Le moyen de comptage n'est pas d'une précision absolue. L'idéal serait qu'on puisse avoir les certificats de destruction des véhicules, ce que nous n'avons pas et que nous aurons un peu plus tard. Il y a un délai de 3 mois maximum pour casser le dit véhicule.
Et si les 200 000 primes devraient être écoulées autour du 15 août, un prolongement du dispositif, peut-être sous une autre forme, est déjà en réflexion.
Aurélien Fleureau et puis le Haut Conseil pour le Climat publient son rapport annuel ce matin. Il appelle à ce que la relance n'oublie pas l'enjeu climatique. Pour cette instance, lancée il y a 2 ans par Emmanuel Macron, les mesures d'urgence liées à la crise ont été principalement tournées vers des secteurs polluants comme l'automobile ou l'aérien.
Et là, vous allez me faire des souvenirs de gosse. Oh la belle bleue ! Mais quel incroyable bouquet final ! Ces phrases qu'on n'entendra pas beaucoup la semaine prochaine, les traditionnels feux d'artifice du 14 juillet seront bien souvent annulés.
Eh oui, évitez les rassemblements. Ne pas creuser encore le trou dans les caisses. De nombreux maires préfèrent passer leur tour à Marseille et Toulouse, décision déjà prise. À Paris, on réfléchit à un spectacle sans public. Dans les petites communes, les feux d'artifice se feront aussi très rares, comme en Alsace. Écoutez le reportage d'Arthur Elmbaché.
Les fameux reflets du feu d'artifice dans les yeux des gamins du village. Rendez-vous incontournable cette année, rendez-vous manqué, regrette le maire de Gambsheim, Hubert Hoffmann.
Imaginez ici 2000 personnes qui viennent là et quand le feu d'artifice est lancé, ben, ils sont tous regroupés au bord de l'eau. Et
le feu d'artifice part de...
Il part de l'autre côté et puis il est tiré sur le plan d'eau. Et malheureusement, cette année, ben, il n'aura pas lieu puisque, ben, oui, en tant que maire, j'ai décidé de l'annuler. C'est pas le moment de créer un incident majeur, un cluster à cause d'une décision mal prise, quoi. Voilà.
Ça, c'est des mortiers calibre 75 ou 100.
Nous voilà dans l'entrepôt calme, trop calme, de Christian Trapon, artificier, leader du secteur en Alsace.
Là, on va être très peu de feux d'artifice, voire presque rien. Ça va se compter sur une main.
Alors qu'en général, c'est...
Presque 200 feux uniquement sur le département du Bas-Rhin.
Parmi les quelques irréductibles, Jean-Charles Lambert, le maire de Stutzheim-Offenheim, qui a la chance d'avoir une colline dans son village.
Cette année, nous n'organisons pas un rassemblement, mais nous avons choisi le point haut du village. Ce sont des tirs en hauteur, de sorte que de partout du village, on puisse le voir.
14 juillet, confiné, avec feu d'artifice, mais sans tarte flambée et picon à la buvette du club de foot. Strasbourg, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Bonjour Bruno Duverger.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la société Ciel en Fête, qui conçoit des spectacles pyrotechniques. Tous ces feux d'artifice annulés, ça représente quoi pour vous en termes de baisse d'activité ?
Environ 80% du chiffre d'affaires.
Ah oui, c'est énorme. 14 juillet, on l'a dit, mais pas seulement. Il y a aussi les festivals, les spectacles, les fêtes en tout genre. Tout ça aussi, c'est annulé.
Tout est annulé, oui.
Et vous avez l'espoir de vous rattraper dans les semaines, dans les mois qui viennent ?
Ben, on espère pouvoir se rattraper un petit peu en septembre et en décembre, parce qu'on on crée des spectacles aussi pour Noël. Puis on a quelques feux aussi à l'étranger qui peuvent nous sauver un petit peu.
Mais vous craignez votre activité, vous craignez que votre société n'arrive pas à survivre à cette crise ?
Non, nous on va survivre à cette crise, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la profession qui malheureusement vont disparaître.
C'est-à-dire que vous êtes un cas isolé ?
On n'est pas un cas isolé, je pense qu'on est plusieurs à avoir une trésorerie assez conséquente pour tenir une année. Et puis, nous, on travaille sur l'année complète. Donc,
c'est comme dans tous les secteurs, il y a les petites boîtes et les grosses boîtes. Vous êtes la grosse boîte, donc vous avez mieux fait face à cette crise. Merci beaucoup. Merci Bruno Duverger, directeur de la société Ciel en Fête, d'avoir été en direct dans le journal de 7h d'Europe 1 ce matin. Et c'était la fin du journal d'Hélène Zélani, qui revient tout à l'heure à 8h. Merci Hélène.